Philosophie de l'art, Père Philippe, 6 janvier 1983, Rimont.
On était l'inspiration, je crois. Hein. C'est bien ça, l'inspiration. J'espère que vous en avez. C'est une chose dont certains refusent l'existence. Vous pourrez regarder la petite topique que j'ai faite dans l'activité artistique. Je ne vais pas la relire avec vous. Ce n'est pas la peine. C'est facile. C'est intéressant. Il faut la compléter, du reste. Parce que c'est une chose qui peut se compléter indéfiniment. On voit combien les artistes essaient d'écrire l'inspiration. Les philosophes aussi essaient d'écrire. C'est surtout Nietzsche qui a essayé d'écrire ce point de vue de l'inspiration et qui montre que de fait, il y a là une source de connaissance, et je crois que c'est surtout ça qu'on doit voir, une source de connaissance qui est irréductible à toutes les autres. Il y a quelque chose dans l'inspiration, qui est quelque chose d'unique. Quelque chose qui nous met au-delà de nos connaissances habituelles. Alors on pourra ramener l'inspiration à une espèce de révélation. On pourra dire que l'inspiration, c'est comme une intuition. On pourra dire que la révélation, c'est justement une connaissance sui generis. Et en disant ça, on n'explique pas beaucoup ce que c'est. Vous voyez, c'est plus facile de comprendre la révélation que l'inspiration. Et c'est important de comprendre ce que c'est parce que, de fait, en théologie, vous parlez de l'inspiration. Or, si vous parlez de l'inspiration en théologie, vous ne savez pas du tout ce que c'est. Vous êtes en face de quelque chose, que vous mettez un mot, et puis c'est tout. Il faut donc essayer de comprendre. La révélation, pour nous, se fait par l'inspiration. C'est très vrai. Elle se fait par une inspiration. Le prophète est inspiré. Il reçoit un message, une lumière qui lui permet d'être inspiré. Et saint Thomas dit que pour être un bon inspiré, un bon prophète, il faut avoir une bonne intelligence. Je ne sais pas si on le dira encore aujourd'hui, mais saint Thomas le dit. C'est intéressant de voir ça. Que la qualité du prophète, c'est d'avoir une bonne intelligence. Pour que Dieu puisse se servir de son intelligence pleinement et totalement. Donc, il y a quelque chose qui, pour nous, est important à préciser. Et c'est très difficile à préciser. Parce que quand vous essayez de voir qu'est-ce que c'est que l'inspiration, vous êtes obligé de reconnaître que l'inspiration source de connaissance. Je crois que ça, c'est la chose première sur laquelle on doit tout le temps venir. Ce n'est jamais une connaissance seconde. C'est jamais une connaissance seconde. C'est une connaissance qui jaillit de nous-mêmes. C'est une connaissance qui n'a pas de source en dehors de nous, de source immédiate. De source médiate, oui. Il y a un milieu d'inspiration, ça c'est très vrai. Il y a des lieux où on est inspiré et des lieux où on n'est pas inspiré. C'est curieux, mais c'est comme ça. Il y a des lieux qui favorisent la stérilité. Il y a des lieux au contraire qui favorisent l'inspiration. Et ce n'est pas le même milieu pour tout le monde. Hein. Vous avez toujours le droit de dire, pour moi, ce milieu ne me favorise pas. Je ne sais pas pour les autres. Mais ça, c'est vrai. Il y a des lieux, et les artistes se sentent très forts. Ça. Et il y a des lieux qui favorisent l'inspiration pour des artistes, et il y a des lieux qui ne la favorisent pas du tout, qui les mettent dans un état de stérilité. Ils se sentent secs comme tout. Tandis que dans certains milieux, au contraire, c'est plus humide, n'est-ce pas? Et effectivement, ils sont portés, il découvre certaines choses. Donc, voyez les deux choses. Le milieu aide, favorise, conditionne, mais n'est pas la source. Autrement, ce n'est plus l'inspiration. Mais je ne peux pas séparer l'inspiration d'un milieu. Je porte en moi quelque chose qui jaillit de moi. Alors, je peux dire que l'inspiration, de fait, est un type de connaissance intuitive. Je crois que c'est la première chose qu'on doit dire. C'est une connaissance intuitive. Mais on comprend très bien. Donc, inspiration, je définis l'inspiration par quelque chose de plus commun. Toute intuition n'est pas une inspiration. Mais toute inspiration implique une intuition. Donc, je parle là, je ramène. Attendez la difficulté. C'est très, très difficile de vraiment de définir ce que c'est que l'inspiration. C'est pas comme ça du tout. C'est pour ça qu'on la rejette. Alors, on fait des approches. Étant donné que c'est quelque chose de premier, j'ai dit que c'est une source. Si c'est une source, vous comprenez bien que c'est pas comme ça. Il n'y a rien. Il y a un milieu. Voilà. Il y a un milieu d'où jaillit cette source. Mais la source, elle jaillit en moi. Elle ne jaillit pas du côté du milieu. Le milieu ne fait que conditionner. Et la source, elle est en moi. On verra où, après. Je dis d'abord intuition. Oui. Toute inspiration implique une intuition. Ce n'est pas une expérience. Au sens fort. Une expérience qui me ferait tourner vers le milieu. Non, ça me fait décoller. Celui qui est dans un état d'inspiration n'est pas du tout comme celui qui a une expérience et qui regarde la réalité. Pas du tout. L'inspiration ne me fait pas regarder du tout la réalité. Je suis un visionnaire, comme diront les inspirés et comme diront les prophètes. Je vois ce que les autres ne voient pas. Je vois quelque chose qui est au loin. Je le vois. Mais ce n'est pas la réalité immédiate. Je ne dirai jamais, je suis inspiré, c'est sacré. Non, non, ça c'est non, c'est dire tout simplement. C'est du bon sens, c'est du sens commun. Tandis que oh, je vois derrière vous quelque chose de merveilleux. Non, je ne veux pas trop le dire, parce que si je le disais avec trop de précision, ce ne serait pas l'inspiration. Il faut toujours qu'il y ait un halo d'imprécision. Vous voyez, l'intuition, c'est de l'ordre naturel. Ce n'est pas de l'ordre de l'expérience. Ça, je crois. L'intuition, ça porte sur quoi? Ça porte sur une relation. Pas sur une réalité existante. L'intuition, ça porte sur quelque chose de possible. Ah, l'inspiration porte sur quelque chose de possible qui n'est pas existant actuellement. Ça regarde le possible. Ça regarde une relation. Le possible, c'est une relation. Toujours. Dans une intuition, il y a toujours un jugement. L'intuition n'est pas de l'appréhension, faisons attention. C'est un jugement. C'est un jugement qui lie quelque chose, une forme à une autre forme. Et nous sommes dans l'ordre du possible. Nous sommes donc dans l'ordre des relations. Des relations possibles qui peuvent exister, mais qui n'existent pas actuellement. Voilà ce que je peux préciser. Donc, l'inspiration porte sur le possible. Mais impossible, que je peux réaliser normalement. L'inspiration artistique porte sur un possible réalisable, un possible que je peux faire. Quelque chose que je peux faire. Ce n'est pas un possible qui est impossible à réaliser. Ce ne serait pas une inspiration. Ce serait de l'ordre purement imaginaire. Vous voyez, je distingue l'imaginaire, le rêve de l'inspiration. Les rêves portent aussi sur le possible, mais sur des possibles qui sont impossibles, c'est-à-dire irréalisables. Ça, c'est le rêve. Et on distingue l'inspiration du rêve. Que l'inspiration puisse impliquer quelque chose qui soit un rêve, c'est vrai. Ça me fait décoller, aller au-delà de ce qui est immédiat, de ce que je commets immédiatement. C'est très vrai, mais c'est impossible, réalisable. Toujours. Autrement, il n'y aurait pas d'inspiration. Je ne dis pas que j'arriverai nécessairement à la réaliser. Je ferai peut-être des choses, mais c'est réalisable. Je le porte comme quelque chose de réalisable. Toute inspiration. Quand l'inspiration porte sur l'irréalisable, ce n'est plus une inspiration. Vous êtes devant un rêve. C'est très important de distinguer le rêve de la pure, de l'inspiration. Ce n'est pas toujours commode à discerner. Hein. Ce n'est pas toujours commode. Et quelquefois, vous le discernerez uniquement par l'œuvre. Quand vous réaliserez une œuvre inspirée, ah oui, vous avez une inspiration. Tant que l'œuvre n'est pas faite, c'est peut-être un rêve. C'est peut-être un pur rêve. Je ne pourrais pas le discerner. Ah, je suis sûr qu'on peut réaliser ça. Je suis sûr. Vous voyez, celui qui est inspiré croira toujours que c'est possible d'en dire attention, attention, vous savez bien, vous êtes très porté à l'imaginaire. Vous êtes très porté à ça. C'est vrai, c'est ordinairement ce qui se passe pour les gens inspirés. Et c'est pas commode de distinguer les deux. Il y a un distinguant parce que le rêve restera un rêve. Le rêve, c'est du pur imaginaire. Ah. Donc le possible de l'inspiration n'est pas du pur imaginaire. C'est autre chose. C'est un autre possible. Ça, c'est très important, je crois, à distinguer ces deux sortes de possibles. Le possible purement imaginaire et le possible capable d'être réalisé. Qui est le possible? Qui est le contenu? Qui est le contenu de l'inspiration? Si je dis ça, je vois que ce qui caractérise cette connaissance particulière, cette connaissance intuitive, c'est que cette connaissance intuitive, portant sur le possible, elle provient donc du sujet, du poète. C'est un poète qui est inspiré. On est tous poètes. Dès qu'on a une inspiration, vous pouvez vous considérer comme poète. Poète dans de différents ordres, on est poète. C'est défini le poète, l'inspiré. Et la qualité de l'inspiration définit la qualité du poète. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette intuition? C'est que sa source, c'est le poète. Donc, vous êtes en présence de la subjectivité transcendantale. La retrouvons ici. Là, la subjectivité transcendantale est parfaitement vraie. L'inspiration est déterminée par elle-même. Elle n'a pas de détermination en dehors d'elle-même. Elle se donne à elle-même son propre objet. Elle se donne à elle-même son propre contenu. C'est la différence de cette intuition d'autres intuitions. Il peut y avoir d'autres intuitions qui ne sont pas des intuitions qui portent sur le possible et qui sont des intuitions critiques, par exemple. Je peux avoir des intuitions métaphysiques, avoir une intuition de l'être, par exemple. Saint Maritain parle de l'intuition de l'être. Ce n'est pas une inspiration. Non. C'est une intuition à l'égard d'une réalité. La réalité peut, de temps en temps, être pour moi source d'une connaissance intuitive. Alors à ce moment-là, je ne dirais pas que c'est une inspiration, je dirais que c'est une intuition. Tandis qu'au contraire, lorsque le sujet est source du contenu même de cette intuition, lorsque le sujet est source de ce contenu, donc je suis en face de la subjectivité transcendantale, c'est-à-dire c'est le sujet lui-même connaissant qui se donne à lui-même son objet, qui se donne à lui-même son objet, qui le spécifie, qui le détermine. Donc, le propre de l'inspiration, c'est une intuition qui se détermine elle-même. C'est une intuition qui se spécifie elle-même. C'est une intuition qui porte par elle-même le contenu même de son intuition. Et ça ne vient pas d'autre chose. C'est le sujet inspiré qui en est la source. Vous voyez que ce qui caractérise l'inspiration, c'est que le sujet connaissant se donne à lui-même sa détermination. Et c'est le propre de la connaissance poétique. C'est le propre de l'inspiration artistique. Alors, c'est exactement, hein, c'est intéressant, c'est exactement ce que je vois pour la subjectivité transcendantale. Alors ça, c'est très intéressant à noter, parce que ça me permet de voir ce qu'il y a de positif dans cette affirmation de la subjectivité transcendantale. Le positif, c'est la connaissance artistique. Et c'est le premier moment de la connaissance artistique. Si la connaissance artistique était la connaissance tout court, la subjectivité transcendantale caractériserait la philosophie. Si de fait la connaissance poétique était la connaissance tout court, était la connaissance philosophique, s'il n'y avait pas de différence entre la connaissance poétique et la connaissance philosophique, je devrais dire que Kant a raison. Oui, c'est intéressant de voir où Kant a raison. Il a raison dans le domaine de l'inspiration. Dans l'inspiration, c'est très vrai. Il y a comme des formes a priori. Les formes que porte le sujet qui est inspiré. Il se donne à lui-même ses déterminations. Il se donne à lui-même son orientation. C'est pour ça qu'un poète, vous ne pouvez jamais lui donner conseil. Impossible. Donner conseil à un poète, il ne pas en peintre. Il ne faut pas essayer. Donc, vaut mieux pas. Parce qu'il sait que ça vient de lui, ça vient de personne d'autre. Le propre de l'inspiration, c'est d'évacuer tous les conseils. Tandis que le propre d'une connaissance pratique d'ordre proprement moral est ouverte aux conseils. Quand vous avez un homme soi-disant prudent qui refuse des conseils, c'est le mode artistique de l'inspiration qui commence à s'emparer de lui. Alors faites grande attention. Vous n'avez pas affaire à un homme prudent, vous avez affaire à un artiste. Alors vous ne savez pas où il vous emmènera. Parce qu'il est dans l'ordre des possibles. Et très vite, il est dans l'ordre des rêves, de l'imaginaire. Et vous arriverez très difficilement à faire le discernement entre les deux. Ça, c'est très important au point de vue pratique, vous voyez. Là, je vois un lien très intéressant, c'est que l'inspiration me met en présence de la subjectivité transcendantale. Et c'est vrai que là, je suis vraiment source. Subjectivité transcendantale qui me porte sur les possibles. Toutes les possibilités. Quand je suis très inspiré, il y a toutes les possibilités qui me présentent à moi. Alors on verra. Donc, ensuite, le passage de ce possible à autre chose. Mais il y a d'abord ça. Alors, d'où vient cette subjectivité transcendantale? Quelle est la source de l'inspiration? Vous savez bien qu'on a donné des quantités de choses. Regardez dans Claudel. La source de l'inspiration. D'où vient la source d'inspiration? Les muses. Hein, les muses. Quand vous parlez de muses, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est mythique, hein, c'est ça. C'est les nymphes. Je suis inspiré, regardez Hésiode, regardez Parménide. C'est mythique. C'est très curieux que l'inspiration me conduise presque toujours au mythe. C'est pas étonnant. Je crois que pour inventer un mythe, il faut être inspiré. Ça, on le verra. C'est très intéressant. C'est intéressant de voir la source du mythe. D'où ça provient le mythe? D'où provient la connaissance symbolique? Alors, l'inspiration, c'est donc quelque chose qui provient du sujet dans sa subjectivité transcendantale, c'est-à-dire l'alliance de l'intelligence et de l'imagination. Alors ça, c'est les deux ensemble. La subjectivité transcendantale, c'est l'imaginaire lié à l'intelligence. C'est l'intelligence liée à l'imaginaire. Bergson appelle l'imagination créatrice, vous savez bien, l'imagination créatrice. Bien, quand Bergson parle de l'imagination créatrice, je peux dire que c'est l'intelligence liée à l'imaginaire. L'imagination en elle-même n'est pas créatrice, elle est uniquement dans les rêves. C'est le planeur, l'imaginaire, je me laisse balancer par les courants d'air différents, ou par les modes, je me laisse aller. Et ça, c'est le rêve. Donc le rêve n'est pas du tout la subjectivité transcendantale. C'est le planeur. Je suis toujours à la remorque de quelqu'un. Quand je rêve, je suis toujours à la remorque de quelqu'un. Ça, c'est la meilleure façon de supprimer la haine. Parce qu'on n'a pas du tout envie d'être à la remorque de quelqu'un. Eh bien, quand vous rêvez, vous êtes toujours à la remorque de quelqu'un. Quand vous êtes inspiré, vous êtes à la remorque de personne. C'est vous. Très grosse différence entre les deux. L'inspiré n'est jamais à la remorque. Jamais. Saint Claudel dit, personne ne m'a influencé. Il peut dire ça. En tant qu'il est inspiré, il a le droit de le dire. En tant qu'inspiré, il a le droit de dire, personne ne m'a influencé. On dira, oui, mais le milieu, là, oui, mais je le dépasse complètement. Autrement, c'est plus l'inspiration, c'est l'expérience. L'expérience me met en dépendance de la réalité. Et le philosophe dira, toutes les réalités m'ont influencé. Et le poète dira, personne ne m'a influencé. Parce que celui qui est inspiré comme inspiré, vient des sources. Donc il est inspiré par personne. Il est lui-même source de sa détermination. Alors, c'est le lien entre les deux, et c'est ça qui serait intéressant à bien saisir. La source de toute inspiration, c'est l'intelligence dans l'imaginaire. L'imaginaire a ceci de très particulier. Le propre de l'imaginaire, on essaiera de voir dans la philosophie du vivant, n'est-ce pas ? Parce que c'est intéressant de comprendre ce que c'est que l'imagination. On n'a pas beaucoup étudié l'imagination, c'est au point de vue philosophique. Aristote a donné le premier traité sur l'imaginaire, dans le dénouement. Puis ensuite, il faut attendre très très longtemps, parce que les théologiens n'en ont pas beaucoup parlé. Comme des rêves. Aristote a donné le premier traité des rêves. Il faut aller d'Aristote à Freud. Entre deux, il y a un vide, c'est les théologiens. Les théologiens ne parlent pas des rêves. Les théologiens ne parlent pas beaucoup de l'imaginaire. Vous voyez, ils n'en parlent pas beaucoup. Tandis que Aristote en parle, et puis vous retrouvez Kant. Je crois que c'est d'Aristote à Kant, l'imaginaire. Et Kant ne parle pas beaucoup des rêves. Il faut Freud. C'est intéressant de voir ces choses-là, parce que ça montre combien les philosophes ont été paresseux. Parce que, bon, le traité des rêves, c'est quand même une chose très importante. C'est quand même, un lieu de réflexion humaine très intense, les rêves, c'est quand même. Et l'imaginaire, c'est très important, l'imaginaire, au point de vue de notre psychisme. Notre psychisme, il est dans l'imaginaire. L'imaginaire, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui peut nous saisir très très fort. C'est lié à nos passions, c'est lié à tous nos états affectifs, et ça peut nous serrer d'une manière telle qu'on ne voit pas d'issue. C'est propre de l'imaginaire, ça. Alors, l'imaginaire me met dans l'immanence absolue. Je crois que c'est propre de l'imaginaire, c'est de me mettre dans l'immanence absolue. Au niveau de l'intentionnalité. C'est ce qui explique comment l'imaginaire peut me conduire à l'angoisse. Parce que je suis dans l'immanence absolue. L'angoisse, c'est l'immanence absolue. Je n'arrive pas à m'en sortir. Dès que vous touchez une réalité extrinsèque à vous, vous ne pouvez plus tomber dans le point de vue de l'angoisse. C'est pour ça qu'un être angoissé a besoin de la présence de quelqu'un. C'est simplement le toucher. Ou quelquefois un petit animal. Ça l'est. C'est une présence. C'est une présence qui oblige de sortir. Vous voyez, la sortie de l'imaginaire. L'imaginaire, ça nous enveloppe, ça nous enlise. Moi, je crois que l'imaginaire, ça nous enlise. On est lié dedans. Vous voyez, c'est exactement l'expérience, celui qui est enlisé. C'est pas l'expérience, mais c'est quelque chose d'être enlisé. Vous ne voyez pas comment vous allez en sortir. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui vous donne la main, ça y est, un sauveur. Mais tant que vous êtes seul, vous êtes pris. Et plus vous faites d'efforts, plus vous descendez. Alors, si heureusement vous touchez un roc, ah, ça y est. Mais extérieur, c'est tout l'imaginaire. C'est tout ça qui vous enlise. C'est pour ça que l'imaginaire, c'est d'être enlisé. C'est complètement d'être pris. On est retourné sur soi. Bon, l'imaginaire, c'est l'immanence absolue. L'intelligence, c'est pas du tout l'immanence absolue. C'est pour ça que c'est très drôle, cette alliance de l'intelligence et de l'imaginaire. C'est très curieux, parce que l'intelligence, elle est par nature objective. Il faut une intelligence détournée pour être une intelligence subjective. Elle peut être détournée par le point de vue de l'imagination, elle peut être détournée par le point de vue affectif, c'est très vrai. Mais l'intelligence par nature est ordonnée à ce qui est. Donc, elle a un ordre, elle a quelque chose de réel. Elle a un désir de sortir d'elle-même. Elle est tout entière ordonnée à l'autre, l'intelligence. Tandis que l'imaginaire est tout entier ordonné au même. C'est deux mouvements totalement différents. L'appétit de l'intelligence et l'appétit de l'imaginaire. Essayez de comprendre ça. C'est très intéressant. Ça explique des tas de choses dans notre vie. Ça. Parce que c'est vrai, c'est un gouffre l'imaginaire. C'est un gouffre quand vous êtes dedans. Vous ne voyez pas possibilité d'en sortir, c'est vraiment, on est dedans. Les premières synthèses se font au niveau de l'imaginaire. Parce que l'imaginaire est synthétique. C'est pour ça que toute la dialectique est imaginaire. La dialectique est imaginaire, c'est propre de l'imagination d'être une pensée dialectique. Elle se divise pour pouvoir augmenter l'infiniment, vous voyez, pour pouvoir aller toujours plus loin. Par l'imaginaire, on peut remonter à l'infini. Tandis que l'intelligence, non recessus ad infinitum. Non recessus ad infinitum. Je ne peux pas remonter jusqu'à l'infini. Ça, c'est l'intelligence qui dit ça. C'est l'intelligence qui saisit un principe et qui dit ça. Alors, quand l'intelligence saisit un principe et qu'elle dit ça, elle se coupe de l'imaginaire. Elle se saisit. C'est la manière de sortir de l'imaginaire, c'est de réveiller notre nous. Alors notre nous, quand il se réveille, on retrouve quelque chose, on trouve le roc. Tandis que l'imaginaire se laisse prendre. Je dis, c'est vraiment le planeur. Il se laisse aller, un mouvement appelle un autre, ou bien enlisé. Planeur quand c'est joyeux, enlisé quand c'est douloureux. Parce que l'imaginaire peut être joyeux, euphorique. Il y a des gens euphoriques. C'est extraordinaire. Savez, il y a des vins pieux et des vins qui ne sont pas pieux du tout. Il y a des petits tonneaux ambulants qui ne sont pas du tout, ça, pas du tout pieux. C'est juste l'inverse. Ils ont au contraire le poignard en main. C'est tout à fait différent. Le vin pieux, ça c'est l'euphorie, c'est l'imaginaire euphorique. Tandis qu'au contraire, il y a l'imaginaire tragique. L'imaginaire tragique m'enlise. Oui. C'est le propre de l'imaginaire dans le sens tragique. Les deux, hein, et sont infinis des deux côtés. Alors, l'intelligence liée à l'imaginaire, ça c'est très très curieux, va être source de ces possibles. Mais vous voyez, hein, c'est pas le pur possible. L'imaginaire laissé en lui-même, c'est le rêve. L'imaginaire imprégné d'intelligence, ça peut être l'inspiration. Alors vous êtes en face d'un possible réalisable. Et réalisable, c'est la présence de l'intelligence dans le possible. C'est la présence de l'intelligence dans le possible imaginaire qui fait que c'est réalisable. Et ça, l'intelligence seule peut faire ça. C'est pas le pur imaginaire. Et en faisant ça, on sort du pur imaginaire. Et c'est en ce sens-là que l'art peut être une catharsis par rapport à l'imaginaire. Une catharsis merveilleuse, une purification merveilleuse. Parce que à l'intérieur de l'imaginaire, il donne le possible à réaliser. Et fait réaliser, mais aussi l'imaginaire peut être quelque chose qui arrête complètement l'inspiration. Si l'imaginaire est trop fort. Si l'imaginaire est trop puissant, l'imaginaire lié aux passions peut très bien être l'adversaire numéro un de l'inspiration. Parce qu'alors à ce moment-là, tout retombe dans l'imaginaire. Et là, vous avez des poètes, vous avez des artistes pris par l'imaginaire qui ne réalisent plus rien du tout. Et qui ne peuvent plus rien réaliser du tout. Parce que ça devient le parasite. Hein. Le parasite qui nous met dans l'immanence pure. Il faut sortir de l'immanence pour réaliser quelque chose. Il faut sortir de l'immanence pour réaliser quelque chose. Si je ne sors pas de l'immanence, je ne réaliserai jamais rien. Alors vous avez ce fait, hein, de l'intelligence, de cette alliance de l'intelligence et de l'imaginaire qui va me faire comprendre ce que représente cette subjectivité transcendantale. La subjectivité à l'état pur, c'est l'imaginaire. Ça, c'est très important de comprendre ça. La subjectivité à l'état pur, c'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui est, de fait, quelque chose qui me met dans cet état subjectif absolu. Alors, subjectivité transcendantale. Transcendantale à cause de l'intelligence. Parce que l'imaginaire n'est pas la subjectivité transcendantale, c'est la subjectivité pure. Mais elle est transcendantale par l'intelligence. Parce que par l'intelligence, il y a dans cette subjectivité un ordre. Quelque chose de premier. Quelque chose qui va émerger et qui va devenir le possible capable d'être transformé, capable d'être réalisé. Mais c'est le lien des deux, c'est ça que je crois qui nous permet de saisir ce qu'est l'inspiration. L'inspiration naît à partir de l'imaginaire dans l'intelligence. L'inspiration, elle est dans l'intelligence, elle n'est pas dans l'imaginaire. C'est la différence du rêve. Le rêve est localisé dans l'imaginaire, tandis que l'inspiration est localisée dans l'intelligence. C'est quelqu'un qui est inspiré, c'est de l'ordre de l'intelligence. De l'intelligence qui n'est pas l'intelligence spéculative, c'est bien évident. Donc c'est pas l'intelligence dans son état. Donc c'est pas l'intelligence dans son état le plus pur et le plus grand. C'est une intelligence liée à l'imaginaire, liée à l'affectif, parce qu'il y a une affectivité, en ce sens qu'on aime de réaliser quelque chose. On aime une certaine beauté. On est séduit par le point de vue du beau. Alors là, c'est très difficile à préciser. Maritain essaiera de préciser cela. Il essaie de préciser ça. Il y a des choses intéressantes. Je ne crois pas que c'est absolument juste, mais c'est des choses intéressantes quand même. Parce qu'au fond, il n'y en a pas beaucoup qui ont précisé là-dessus, dans ce domaine-là. Essayez de voir comment le point de vue de l'affectivité est présent dans l'inspiration. Je mets bien intelligence imaginaire plus amour. Il y a toujours un certain amour dans l'inspiration. Toujours. Alors, cet amour porte sur quoi? Il ne porte pas sur le facere, qui est beaucoup plus noble. Il est antérieur au facere. Il est antérieur à l'efficacité. Ce n'est pas l'amour du travail qui m'aura inspiré. Non. Mais je ne dis pas qu'être inspiré m'enlève au travail. Pas du tout. Un véritable homme inspiré veut travailler pour réaliser ce qu'il porte en lui. Alors il veut le réaliser. Et on reconnaît là justement la véritable inspiration d'une inspiration qui est contaminée par le rêve. Le rêveur ne réalise rien. Jamais rien. Le rêveur n'aime pas le travail. Ça, c'est sûr, il n'aime pas le travail. Parce qu'il est rêveur, tout simplement. Alors il est dans l'immanence de son imaginaire. Donc, il y a quelque chose d'autre qui fait la réalisation. C'est le possible à réaliser. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence nous rend travailleurs. C'est très curieux, ça. C'est le réalisme. C'est ça, les psychologues le diront. Hein. C'est qu'à travers le travail, vous retrouvez le sens du réel. Quelqu'un qui continue de travailler, il n'y a pas de danger. Le danger, c'est quand on ne travaille plus. C'est pour ça qu'à certains moments, il faut un travail manuel. Parce que le travail manuel me remet dans le réel. Le travail intellectuel, vous voyez, si l'habitus métaphysique ou l'habitus philosophique n'est pas assez fort, je peux être emporté par le l'ouragan. Alors j'ai besoin à ce moment-là de me retrouver dans un travail manuel. Le travail manuel, ça tient la route beaucoup mieux. Ça tient la route beaucoup mieux. Alors le travail manuel maintient le réalisme et me fait, vous voyez, ça fait crever l'imaginaire, parce que je suis en contact avec l'autre par le travail. Et en contact avec l'autre, l'imaginaire ne peut plus être tout. Tandis quand l'imaginaire se met tourné, c'est tempête de larmes, que voulez-vous, c'est petit lac intérieur. Alors c'est des choses effrayantes. J'arrive plus, on voit plus par où on peut se prendre. On dira, c'est très bien travailler, c'est très bien, mais je peux plus. Ah, attention, il y a des moments où vous pouvez. Et c'est le moment où on peut qu'on doit se mettre à comprendre ce que c'est que le travail. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un travail en train. Toujours, pour ne pas perdre de temps. Dès qu'on a fini un travail, il faut en commencer un autre. Tout de suite. Et alors, dès qu'on a un travail en train, on met l'imaginaire qui se rêve, on va tout de suite se mettre au travail, avec le mieux qu'on peut. Et alors, à ce moment-là, ça nous aide à crever le point de vue de l'immanence purement imaginaire. L'intelligence au-dedans, vous voyez, empêche cette immanence, subjectivité transcendantale, par l'intelligence. Ce n'est pas l'imagination qui est transcendantale, c'est l'intelligence. Satan t'a raison. C'est l'intelligence qui est transcendantale. C'est l'intelligence qui transcende tout, toutes les déterminations du monde physique. Et c'est à l'intérieur de cet imaginaire mettre quelque chose qui dépasse tout le monde physique. C'est ça les possibles. Vous comprenez très bien que je ne réaliserai jamais rien si je n'avais pas en moi quelque chose que je porte, qui n'a pas encore été dit. L'inédit. Donc, ce qui est au-delà de toutes les formes que j'expérimente, qui sont dans mon milieu. Le poète ne veut pas ajouter quelque chose à tout ce qu'il dit. Non, non, il veut dire quelque chose qui n'est pas encore dit. Autrement, il ne réalisera rien du tout. Alors, c'est pour ça que c'est le possible qui montre l'aspect subjectivité transcendantale. Ça dépasse toutes les catégories que je constate dans le milieu. Je voudrais inventer une nouvelle catégorie. Je voudrais inventer une nouvelle relation. Si ce n'est pas une catégorie, je voudrais au moins inventer une nouvelle relation. C'est une relation possible. Quelque chose de nouveau qui n'a pas encore été dit et que je porte en moi et qui est quelque chose de tout à fait particulier. Et je veux le réaliser, ça. C'est ça l'inspiration. Il y a donc l'imaginaire et quelque chose qui dépasse l'imaginaire et qui transcende et qui est réalisable. Au moins en partie, je crois qu'il est réalisable. Parce que si je n'arrive pas à le réaliser, au bout d'un certain temps, je serai bien obligé de dire ce n'est pas réalisable. Je croyais que c'était réalisable, mais je vois que ce n'est pas réalisable. Alors vous voyez, à ce moment-là, il y a le danger, c'est de se replier sur soi et de se dire c'est impossible, je n'arriverai jamais. Bon, alors on voit très bien ça. Les phases qui sont difficiles dans la réalisation. Je pensais que c'était réalisable, je vois que c'est irréalisable. Quelqu'un qui fait une dissertation, il faut quand même une certaine inspiration comme départ. Un sujet de dissertation, un mémoire de licence, moins. Mais une dissertation, oui. Alors, le mémoire de licence peut être à l'origine d'une dissertation. Je vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Et je crois que c'est intéressant, je crois qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Alors on veut, à partir de là, le montrer. Et c'est ça qui éveille notre intelligence. Vous voyez, c'est saisir ce que représente le contenu d'une inspiration. Et le sujet, donc la source de cette inspiration, c'est l'intelligence dans l'imaginaire. Avec le point de vue affectif. Alors, c'est ce point de vue affectif. Ce point de vue affectif, ce n'est pas l'amour du travail. Non. L'amour du travail n'a rien à voir avec l'inspiration. Ça a à voir avec l'homme de métier. C'est l'homme de métier, l'amour du travail. Un homme honnête de métier. On sait très bien ce que c'est qu'un homme de métier. Bon, alors ça, il a un amour du travail. L'inspiration, l'amour qui est présent, l'affectivité qui est présente dans l'inspiration, ne s'oppose pas au travail. Pas du tout. Et c'est pas ça qui me donne... C'est quelque chose d'antérieur au travail. C'est un amour à l'égard, justement, je crois, de la capacité transcendantale de l'intelligence qui fait qu'on aime ce possible qu'on considère comme quelque chose qui exprime de la manière la plus profonde ma subjectivité transcendantale. Il y a un amour là, un amour très très particulier, mais il y a un amour. L'homme inspiré est un amoureux. Il est amoureux de quoi? pas du travail qu'il va faire, non. Donc, il n'est pas un amoureux de l'œuvre, mais de la possibilité de l'œuvre. C'est très curieux d'avoir un amour à l'égard du possible. Il y a un amour à l'égard du possible parce que, justement, ce possible, on le considère comme quelque chose qui n'a pas encore été dit et qui pourra exprimer de la manière la mieux, la plus adéquate, ce que je porte en moi, ce qui est moi-même. C'est pour ça qu'on dira que cet amour, au fond, reste encore égoïste. C'est ce qu'on dira tout le temps. On dira, oh, les poètes, ils sont égoïstes. Ils se regardent tout le temps. Ben oui, ils se regardent tout le temps. Ils se regardent pas comme homme, ils se regardent comme poète. C'est pas la même chose. Donc, ils ne sont pas égoïstes au sens moral. C'est tout simplement parce que la subjectivité transcendantale, qui implique comme contenu quelque chose qui est né à partir de l'intelligence liée à l'imaginaire, fait que ce contenu, il sort du poète. Et c'est pour ça qu'il l'aime. Et il l'aime dans la mesure où il va exprimer quelque chose de lui, et quelque chose d'unique. Et donc il y a bien un certain amour, l'intelligence et l'imaginaire. Et cet amour est nécessaire pour expliquer comment, de fait, on reste devant cette phase de l'inspiration comme une phase capitale. Je crois que c'est intéressant à noter que là, on est en présence de ce qu'il y a de juste dans la subjectivité transcendantale avec cette note de l'affectivité. Vous voyez, on aime ce qui, dans l'inspiration, est l'immédiat. On aime de pouvoir exprimer quelque chose que personne n'a encore dit. Et c'est ça qui va nous donner la force d'entreprendre le travail. La force d'entreprendre et de lutter, parce qu'on sait très bien qu'on luttera. Parce qu'on est dans un monde de gens qui sont incompétents. Si on a la subjectivité transcendantale, on est seul compétent. C'est bien évident, il y a toujours cette base de... C'est pas de l'orgueil, mais c'est tout simplement la subjectivité transcendantale. On dépasse les os d'une tête. Et donc on a en soi cette espèce d'amour de réaliser ce qu'on a conçu, ce qu'on a saisi en soi, on l'a saisi. Vous retrouverez ça, vous savez, dans toutes les inspirations. Vous trouvez ça chez des artisans. Des artisans qui ont longuement travaillé, ils découvrent quelque chose. Ils découvrent quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Mais il faut voir la fierté devant laquelle ils vous donnent ça. C'est plus du tout l'artisan qui exécute, c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui a trouvé quelque chose. Il a découvert quelque chose. Il a découvert quelque chose qu'on n'avait pas encore dit. Il peut y avoir une inspiration aussi dans l'ordre philosophique. C'est évident qu'il peut y avoir une inspiration dans l'ordre philosophique. Mais attention, le philosophe découvrira impossible à réaliser, mais il reviendra à l'expérience, puisqu'il devra l'expliquer par l'expérience. Il donnera une nouvelle lumière sur l'expérience que les autres n'ont pas encore vue. Et à travers cette expérience, il essaiera d'expliquer ce que lui, profondément, il a senti dans son inspiration. Et c'est pour ça que quand Maritain dit que au-delà de la métaphysique, il y a l'inspiration poétique, attention, je dirais, au-delà de la métaphysique, il y a l'inspiration poétique dans l'ordre génétique, mais pas dans l'ordre de perfection. Et l'erreur de Maritain, c'est de confondre les deux. Alors, à un moment donné, il dit, puisque l'inspiration poétique est antérieure à la métaphysique, l'inspiration poétique va plus loin dans l'ordre de l'être que la connaissance métaphysique. Alors, vous voyez, ça c'est gênant, parce que c'est mettre le possible avant l'acte. Mais dans l'ordre génétique, on sait que le possible est avant l'acte. Et donc c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout de dire que il y a de fait une inspiration poétique qui est antérieure à la métaphysique, tout à fait, qui me pousse et qui pousse le métaphysicien à chercher. À dire là, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Et puis il essaiera de voir le moment de la confusion, le moment, c'est toujours intéressant de voir l'enterrement de première classe, de cette inspiration que j'ai. Comment se fait-il que cette inspiration n'a pas été dite? Alors il remonte Il se sert de l'histoire pour remonter le moment de la confusion, où on a noyé l'enfant, l'enfant chéri. On l'a noyé devant autre chose, devant telle ou telle chose. On n'a plus voulu en parler et on a donné autrement. Vous voyez, là on voit très bien comment il peut y avoir une inspiration, parce que c'est intéressant de voir combien l'inspiration joue dans notre vie intellectuelle un rôle extrêmement important. Je crois que celui qui n'a aucune inspiration dans le domaine de l'intelligence spéculative ou dans le domaine de l'intelligence pratique, il est ennuyeux. Mais c'est ça l'ennuyeux, n'est-ce pas ? Parce que l'ennui, c'est la répétition. Il n'y a rien de plus ennuyeux que la répétition, c'est bien. On le fait vertueusement par obéissance. Alors à ce moment-là, on aime les répétitions. Parce qu'on aime les répétitions parce qu'on nous le demande. Alors par l'obéissance, c'est là on voit si vous êtes vertueux. N'est-ce pas ? Alors vous aimez la répétition. Tandis que la répétition et le fait de l'imitation n'a aucun charme en soi. Aucune séduction, ni grassou. C'est vraiment quelque chose qui n'a aucun charme. Il n'y a aucune prise sur l'inspiration. Tandis que dès que vous découvrez un possible nouveau, ah, c'est toute autre chose. Votre intelligence est à l'état d'alerte. Subjectivité transcendantale. Essayez de saisir la subjectivité transcendantale de votre intelligence. Au moment où vous avez une inspiration, quand elle est toute chaude, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.